Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bah, écoutons France Inter dans ton atelier. Serge, salut.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu fais sur Barnave aux artistes, toi ?
Alors là, je fais un atelier de tournage sur bois, donc dans mon atelier de menuiserie. Donc, c'est l'occasion de sortir le tour qui avait pris la poussière depuis quelques temps. Et puis de retrouver un peu les sensations de tournage avec les gouges, les bédanes, les racloirs, voilà, qui permettent d'usiner le bois pour sortir des coupes, des bols, des vases ou des pièces plus excentriques, plus... voilà.
Parce qu'au départ, tu n'es pas tourneur. Hein.
Non, je ne suis pas tourneur, je suis menuisier. Donc je travaille essentiellement le bois pour des ouvrages de construction.
Par exemple,
escalier, pose de fenêtres et de portes, voilà, j'en fabrique plus exceptionnellement parce que voilà, les usines, enfin les machines à commande numérique, travaillent mieux que qu'à l'atelier maintenant pour sortir des portes et des fenêtres au même prix qu'une machine à commande numérique, ça devient difficile quoi. Donc plutôt des pièces sur mesure. Et puis après, transformation de structures, de planchers, de mezzanines, enfin tout travaux qui touchent au bois et dans la maison, quoi. Voilà.
C'est quoi ton lien avec le bois, justement ?
Alors, le lien, il est... c'est un lien qui remonte à l'enfance. Hein. J'ai un papa qui était forestier, qui bricolait beaucoup le bois. Et du coup, enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est forcément, ça a influencé. Et puis, c'est un matériau que j'ai aimé depuis l'enfance. J'ai des souvenirs de tournage sur bois, sur un tour bricolé avec un moteur de machine à laver, sur un châssis, une structure, un piétement en bois. Donc voilà, voilà, faire des petits soldats de bois, autour à bois, c'était...
Ah ouais?
Ouais, ça avait été un petit défi qu'on se lance. Et du coup, voilà, ça remonte à longtemps avec des périodes avec moins de... Voilà, et puis je suis revenu à l'âge de 28 ans en passant un CAP de menuiserie et agenceur, voilà.
Le choix du bois, ça, c'est aussi quelque chose d'assez important, au-delà même de la matière bois, mais de quel type de bois pour quelle chose. Je sais aussi, je glisse, que tu es capable de mettre des arbres dans des maisons. Donc voilà, explique-nous un peu comment tu choisis du bois, d'où il vient.
Alors c'est vrai que d'utiliser des bois dont on connaît l'origine, c'est vraiment une grande satisfaction. Donc déjà avoir travaillé avec des bois régionaux si on peut, ça c'est du coup bon, c'est aussi faire travailler des entreprises locales, des scieries, voilà, qui sont très précieuses, qui se sont beaucoup raréfiées depuis une cinquantaine d'années. Du coup, voilà, si travailler donc des bois qui viennent de nos régions. En plus, on a un panel de choix qui nous permettent de faire tout type d'ouvrage, hein, des bois aussi bien d'intérieur qui ont des très belles finitions à l'usinage que des bois d'extérieur qui tiennent aux intempéries.
Cite-nous quelques essences.
Pour les bois d'extérieur, on a du mélèze, voilà, qui vient pas de très loin, hein, plutôt côté Hautes-Alpes. On a du Douglas aussi, voilà, qui vient plutôt côté Massif Central. Et puis après du sapin, de l'épicéa pour plutôt des usages intérieurs. On a des forêts qui sont très bien, qui ont des très belles qualités de bois. Et puis après les bois dans le Diwa, on peut avoir du pin sylvestre, on peut faire de très beaux parquets. Voilà, je connais un peu moins. On a le peuplier aussi qui est intéressant, qui a été beaucoup utilisé pour les charpentes autrefois. Et puis le hêtre aussi, alors qui peut être nerveux un peu en montagne, mais voilà. Après, C'est savoir le choisir aussi en grume et puis savoir le laisser sécher quoi, suffisamment de temps pour l'utiliser sans qu'il travaille trop. Quoi.
Voilà. C'est comment tu l'apprends ?
Alors, il y a des... on l'apprend à l'école, on peut l'apprendre à l'école, ouais, ouais, tout savoir comment les stocker du bois, comment le choisir, faire attention aux défauts, etc. Et puis après, c'est aussi aimer se balader en forêt, donc repérer des arbres qui ont soit des défauts ou des... voilà, qui... et on peut voir le... l'objet après aller un peu plus loin dans le dans la projection et du coup cet arbre peut nous on, voilà soit on l'emmène au scieur soit après on le travaille sur place voilà à la tronçonneuse aussi c'est
un peu, ouais. Ouais. Ouais, toi t'as un peu ce truc là c'est-à-dire de tout d'un coup voir cet arbre et de dire bah tiens celui-là je lui vois bien cette destinée là c'est quand même un truc hyper artistique comme approche justement.
Ouais, en fait, ce qui me plaît dans le ce que je fais, c'est même si on travaille le bois avec des outils, qu'on puisse voir son origine. Et j'aime bien laisser un défaut ou une caractéristique qui rappelle que cet arbre a poussé dans une forêt et voilà, ce qui rappelle ses origines, quoi. Ça, voilà, j'aime bien et... plutôt que d'avoir un truc lisse et carré, identique à une autre pièce, etc. Voilà. Après, on ne peut pas le faire pour tout, mais quand on peut ramener une touche comme ça dans une maison, c'est toujours plaisant. Quoi.
Et du coup, je me pose la question, mais tu peux couper n'importe quel arbre comme tu veux, où tu veux ?
Non, il y a... dans la forêt appartient à toujours à quelqu'un, hein, que ce soit l'État, que ce soit les communes ou les propriétaires privés. Donc moi, j'ai une forêt dans le Vercors qui me paie avec une variété d'arbres, de l'érable, passant par le hêtre, le frêne, le sapin, l'épicéa. Et puis après, si je peux demander, je demande à des propriétaires ou à forestiers s'ils sont OK. Ou des gens qui me proposent. Là, j'ai trouvé de l'orme. Et c'était de l'orme qui devait partir en bois de chauffage, mais des billes énormes. Quoi. Et comme l'orme est très, très rare, j'ai profité pour le réserver, de le mettre plutôt au sillage qu'au bois de chauffage. Quoi.
Le scandale.
Oui, il y a beaucoup d'arbres, de beaux arbres qui partent en bois de chauffage et qui pourraient donner de très bons bois d'œuvre, bois de construction ou de menuiserie. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. D'où l'intérêt et ce qui se fait de plus en plus au niveau des forestiers, c'est qu'ils trient le bois à chargeoir pour le destiner à différents usages. Alors ça peut être du bois pour le bois déchiqueté. Je ne me souviens plus du terme.
Palette.
Puis plaquette, voilà. Et puis du bois à palette aussi. Après, des bois qui vont aller plutôt pour la charpente, qui ont des bonnes capacités en flexion, compression. Et puis après, des bois à finition très fine qui vont aller plutôt en menuiserie. Et puis après, des bois qui peuvent aller jusqu'à l'ébénisterie, voilà, qui ont des veinages très, très beaux, avec une finition... un grain très homogène qui permet des finitions très, très fines et lisses, quoi, avec des bonnes finitions. Donc voilà, c'est l'intérêt de choisir le bois, et puis des bois de lutherie aussi. On peut trouver des fois des bois de lutherie dans des bois de... dans des tas de grumes, mais voilà, maintenant c'est de plus en plus trié, donc c'est intéressant, ouais, de valoriser à la sortie de la forêt, quoi.
Cette formation de menuisier t'a amené jusqu'à faire de la charpente d'un côté, peut-être à faire des meubles, parce que toi-même tu fais t'es ébéniste, et puis du tournage.
Oui, la menuiserie, c'est surtout tout ce qui touche à l'agencement dans la maison, on va dire, hein, que ce soit des planchers, des finitions de plafond, les agencements de cuisine, de salle de bain. De tout ce qui est meubles, etc. La partie ébénisterie concerne plutôt la fabrication de meubles. Voilà.
T'en fais ?
Alors rarement, parce qu'il faut un atelier avec des presses notamment Voilà, il y a des outillages spécifiques, donc c'est pas très commun, mais je peux être amené à le faire, voilà. Et puis la charpente, j'aime bien travailler le bois massif, et là je travaille avec un collègue qui est charpentier, lui, voilà. On prend des chantiers à deux, et donc je vais l'aider, et puis s'il y a de la partie menuiserie, parce que c'est moi qui m'en charge, et voilà. On a un peu cette organisation-là, quoi.
Et tu l'as dit tout à l'heure, tous les outils sont bons, et y compris la tronçonneuse. Moi, je t'ai vu scuter la tronçonneuse, c'est un peu impressionnant, ça.
Ouais, c'est un outil qui semble...
hyper dangereux.
Alors, qui peut se révéler très dangereux, ouais, et qui peut être dangereux. Voilà, avec un peu de pratique, on arrive à faire des choses assez précises, finalement, en charpente. Elle peut être... On peut tailler une charpente traditionnelle, voilà, à la tronçonneuse, en étant, voilà, avec des guides un peu spéciaux, des affûtages aussi irréprochables. Et là, on peut faire des coupes très, très précises. Et c'est un outil qui est redoutable, ouais, ouais, pour travailler surtout des grosses pièces, voilà, ouais, plutôt en charpente, on va dire.
Alors là, on est dans ton atelier à Barnave. Donc, tu nous disais en intro que tu as ressorti ce tour, cette machine à fabriquer des pièces en tournant. C'est pas ton boulot, du coup, initialement, mais t'en fais régulièrement quand même.
Régulièrement, pas assez à mon goût, parce que c'est vraiment, ouais, c'est un moment de détente. Un peu, ça demande. On oublie tout quand on est sur le tour à bois. Il faut être concentré sur l'outil, sur la coupe de l'outil. Donc c'est vraiment un moment d'un peu de méditation, ouais, de concentration. Du coup, voilà, j'aimerais pouvoir le faire plus souvent, c'est vrai. Et après, on sort des pièces qui sont toujours étonnantes par la forme. Un peu, on s'attend pas toujours. Enfin, on était parti avec une forme en tête, et puis on sort avec une autre forme parce qu'il y avait un défaut dans le bois. Le bois a pas réagi comme on se pensait sur une phase du tournage. Du coup, voilà, on change un peu nos plans pour.
C'est jamais frustrant.
Ah bah si, parce que des fois on peut travailler 2-3 heures sur une pièce, et puis sur peut-être une inattention ou un défaut, ou la pièce casse et on peut rien faire, quoi.
Tu jettes, quoi.
Voilà, on jette, ça passe au poil, quoi. Ouais.
Ça t'arrive souvent ?
Comme je tourne pas souvent, ça m'arrive pas souvent. Mais ouais, on fait en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Voilà, parce que donc en fait, il y a des pièces qu'on laisse. Parce que la fatigue, ou on est resté trop concentré dessus, donc et on arrive dans une phase de tournage un peu cruciale, et on n'ose pas aller plus loin parce que voilà, on n'a pas le bon feeling pour finir la pièce. Donc c'est des fois, mais il y a certaines pièces où on peut pas les laisser non plus trop longtemps attendre, parce que en séchant elles se déforment, et du coup après il faut reprendre toute la forme, voilà, qui s'est un peu ovalisée, il faut la remettre. Ça devient vite compliqué, quoi. Donc voilà, c'est un peu un challenge, un peu c'est une activité, voilà, où il y a des phases de grande satisfaction et des phases de frustration, et puis des phases aussi de grande tension, quoi. Mais ouais, c'est très très gratifiant, et c'est ce qui fait, en fait, c'est des pièces qu'on a beaucoup de plaisir à offrir. En fait, je m'aperçois que j'ai très peu de pièces chez moi. J'ai beaucoup offert ces pièces-là parce que, voilà, c'est un peu des pièces uniques, et je sais pas comment l'expliquer.
Ouais, tu les vends pas ?
Non, c'est vraiment pour le plaisir, là, de tourner, quoi, de ce rapport particulier au bois. On est très proche du bois, on a tous les sens un peu en éveil, parce qu'il faut écouter le bruit de l'outil sur le bois, les vibrations, donc le toucher, les vibrations du tour, s'il y a un petit déséquilibre dans la pièce, l'odeur aussi, si ça sent un peu le chaud, puis il y a l'odeur aussi du bois qui se dégage, suivant le bois qu'on tourne, on va ressentir vraiment, on rentre dans l'intimité du bois, quoi. C'est assez, ouais, c'est émouvant comme activité, ouais, ouais.
Alors là, tu tournais quelle matière, et tu vas nous faire quoi ?
Là, c'est du noyer. C'est un noyer assez sombre, hein, qui est un beau veinage sombre, notamment vers le cœur, et un peu gris sur l'extérieur. Et je suis parti sur une forme carrée qui fait presque 30 cm de côté, et je vais en faire une coupe à fruits qui va rester donc carrée. mais je vais galber le fond et galber aussi le creux de la coupe dans un carré. Donc j'aime bien aussi mélanger, enfin je sais pas comment on peut appeler ça.
Parce qu'un tour, on s'attend pas à ce que ce soit carré.
Voilà, c'est vrai. Mais c'est en fait, c'est comme si le bois avait été déformé. Qui prennent une autre forme qu'on attend de lui, quoi. Et voilà, c'est un peu le deal un peu de ce type de pièce, quoi.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a, bon là on le voit posé, mais en fait je me suis toujours un peu demandé comment ces pièces sortaient, parce qu'on s'imagine pas. Enfin, faire une poire ou je sais pas ce que comme t'as fait, voilà, t'en as fait, ou une toupie, on s'imagine pas le voir dans un morceau de bois. Comment ça se passe?
Alors c'est vrai que c'est toujours un peu la surprise, même quand on pratique le tournage depuis longtemps, parce que on va, comme je disais, on rentre dans l'intimité du bois et on va du coup découvrir une part de son histoire aussi. Donc on peut tomber sur des défauts.
Oui, plus t'es à cœur, c'est-à-dire que tu pourrais voir une année où ça n'a pas été bien pour lui, où il a été choqué.
Ouais, on peut avoir des arbres qu'on poussait avec des contraintes liées au contexte de leur contexte de vie. Alors ça peut être plusieurs années de sécheresse, après des sols très durs ou venteux, faut des endroits venteux. Et ça se traduit dans le veinage du bois, dans les cernes du bois. Et on va avoir des densités différentes du coup. Parce que l'arbre, pour survivre, il va se redresser par rapport à la pente, il va résister au vent en mettant plus de densité sous le vent, etc. Donc, on va rencontrer ces différentes zones au moment du tournage, et on peut tomber sur des blessures aussi, une pierre qui est venue le heurter, ça a cicatrisé, donc on peut avoir des inclusions dedans. On a même des fois, on peut trouver une pierre dans des racines, je travaille un peu des racines des fois de buis, où on a des pierres qui sont coincées dedans, quoi, qui ont été complètement rentrées dans le bois, quoi.
Et les fils de fer, des trucs comme ça aussi.
Ah, c'est possible, voilà, en bordure de champ, ouais, quand on fait scier des bois de bordure de champ, ouais, ça peut arriver, ouais, des barbelés ou des choses comme ça qui ont été. Et du coup, en tournage, ça m'est jamais arrivé de tomber là-dessus, sur ce genre de trucs, mais des pierres, oui. Et puis, on va se servir de ces incidents là de vie un peu de l'arbre, il va falloir modifier la forme qu'on avait imaginée pour enlever la grosse fente qu'on vient de découvrir, le nœud noir qui était caché à l'intérieur, donc la pièce elle peut se réduire en taille, elle va changer de forme, mais ou alors on peut en faire un défaut, garder le trou parce que ça va être le mettre en valeur dans une coupe, etc. Ou on peut le boucher avec après de l'étain ou un mastic de couleur, du coup, et le tourner avec cette nouvelle matière, donc mélanger les matières. Après, on peut faire des collages de pièces aussi, on peut ramener un bouchon d'une autre essence pour enlever ce trou, cette fente. Et là, on a une association d'essence. On peut, en fait, c'est très... il faut laisser cours à l'imagination, quoi. Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est aussi hyper mental. Là, tout à l'heure, tu faisais un peu ta démo. Il y a toute une projection que nous on n'a pas là en te voyant faire, et des calculs un peu précis dans quel angle tu prends, quel outil, il y en a plein.
Ouais, en fait, on passe par différentes étapes, et si on réfléchit pas assez à l'ensemble du processus, à un moment donné, on peut se retrouver coincé à plus pouvoir reprendre la pièce pour retoucher une partie, parce qu'on aura enlevé l'empreinte ou l'endroit qu'on avait façonné pour tenir la pièce sur le tour. Et là, on ne sait plus comment faire tenir la pièce sur le tour, si on a loupé une étape ou...
Parle-nous un peu de ces étapes, et justement, il y a des pièces qui vont venir... des mâchoires un peu...
Tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. En général, on démarre avec une pointe folle à l'autre bout du tour qui nous permet de tenir la pièce entre deux pointes. Une pièce qui va entraîner côté moteur qui va donner le mouvement, et l'autre pointe qui va centrer la pièce, qui va lui permettre de tenir en pression sur la pièce qui est face contre le moteur. Et on va tourner la pièce un certain temps comme ça pour la dégrossir, lui enlever du balourd pour pas que le tour se mette à vibrer, etc. Donc bien équilibrer le poids de la pièce, voilà. Approcher la forme comme ça. Et puis après, on peut être amené, suivant le type de pièce, si on doit faire un bol ou donc à creuser le bol, on va faire une empreinte qui va
donc
nous
permettre. Un trou, une sorte de.
Voilà, une sorte de prise dans le bois, un trou d'une certaine forme, un peu évasé, enfin en cône inversé. Pour mettre un mort, une pièce qui va s'expanser à l'intérieur de ce trou et le tenir que d'un seul côté. Donc, et là, on va pouvoir travailler une face sans être gêné par la pointe folle. Donc la pièce est tenue que d'un côté. Donc là, il faut qu'elle soit bien équilibrée. Et après, utiliser les outils de façon précise pour pas faire forcer la prise, quoi. Sinon, la pièce peut se détacher du tour et puis se briser au sol. Voilà. Donc, ça demande bien penser toutes les étapes dans l'ordre, finir un côté ou alors se dire si je veux revenir, il faudra quand même que je puisse reprendre la pièce de cette façon-là pour pouvoir y revenir. Voilà, c'est
marrant parce que tu disais tout à l'heure que c'était assez méditatif, mais en même temps, quand tu médites, c'est plutôt de vider ton esprit, il me semble. Et là, toutes ces étapes, ce protocole est hyper précis. Et il faut être très attentif, j'ai l'impression, au contraire, non ?
Ouais, méditer, c'est aussi centrer son esprit. C'est revenir toujours à un endroit, et au centre de son esprit. C'est ça, la méditation. On ne peut pas ne penser à rien, ça n'existe pas. Mais du coup, là, on est obligé d'être là, sur la pointe de son outil, tout en gardant des sensations extérieures. Ça veut dire qu'on peut méditer, on sait ce qui se passe autour de nous, mais ça ne vient pas nous emporter ailleurs, quoi. On est là, sur la pointe de l'outil, on entend le tour vibrer ou pas, on sent aussi si ça chauffe, si comment sont les copeaux, mais on est sur la pointe de l'outil, au niveau de l'attention, du geste. Voilà, donc c'est, pour moi, ouais, c'est un effet méditatif, ouais, qui est assez...
Et c'est dangereux ?
Non, on a les tours qu'on trouve, enfin qu'on a maintenant, en fait, si un outil coince la pièce, le moteur déclenche, quoi, il y a une résistance, voilà, qui coupe, et du coup, alors des fois il arrive que la pièce effectivement puisse s'envoler quand elle est tenue, enfin quand on travaille des pièces très très fines, un peu, ou elle casse, ou voilà, mais c'est pas, voilà, si on est assez conscient.
Contrairement à la tronçonneuse, c'est pas...
non, je suis pas obligé de de m'équiper avec un casque. Il vaut mieux avoir une paire de lunettes, ouais, si, voilà.
Et donc, France Inter, tu travailles toujours en radio ?
Ouais, c'est la radio, voilà.
C'est quoi ton rapport à la radio ?
Eh ben, c'est un rapport de longue date. Je m'aperçois que je pourrais difficilement m'en passer. Ouais, c'est une ouverture sur le monde. Ça a été une prise de conscience aussi à travers des émissions comme Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, là, qui... Ouais, ça m'a beaucoup aidé à comprendre le monde, ouais. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves toujours sur l'antenne d'Inter aujourd'hui ?
Pas beaucoup. Je suis un peu... Ouais, c'est dommage. Je trouve que, du coup, bon, on passe à France Culture. Et... France Musique, voilà.
Est-ce que tu as envie de donner un peu des rêves ? Comment on peut te trouver, te faire bosser ?
Alors, j'ai envie de bosser moins pour tourner plus, donc je ne vais pas faire de pub. Pour... Ouais, je suis désolé.
Mais... Eh ben, tant mieux. Donc on peut te commander des pièces ?
Oui, mais il faudra être patient.
En tout cas, on peut venir te voir dans cet atelier à Barnave. Merci Serge.
Salut.
Bonjour Daniel. Ce message s'adresse aux dirigeants de France Inter. L'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, est un bien d'utilité publique. Ne la supprimez pas, s'il vous plaît. Sinon, on monte au créneau, on achète, on se cotise, on achète une radio Daniel, et il aura toute la liberté pour faire toute la semaine. Ou alors on monte devant le siège de France Inter et on sort nos pancartes. Merci.
Bonjour à tous. Ah, ben je viens d'apprendre, avec surprise, sans trop, mais enfin bon, qu'il y aurait peut-être des difficultés pour que l'émission soit reconduite à la rentrée. J'espère que non, hein, parce que alors là, non, alors là, c'est pas possible, ça. Non, ils vont oser. J'aimerais bien avoir plus de détails. Je pense que d'autres voudraient aussi en avoir. Ah non, 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 c'est pas possible. Oh non.
Salut, c'est Daniel Mermès et la basse IJ Suite avec Guy Vanctil, Antoine Chao, Charlotte Perry, Anaël Verzo et Gaylor Panvimarche.
Flight number 2, arriving from New York.
Moi, je n'ai jamais vu rien de tel. Jamais. Ce sont des pures affabulations dont, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Et vous me permettrez d'ajouter que je regrette de vous avoir répondu parce que vous m'avez dit, je vous interrogeais sur quelque chose, vous m'avez interrogé sur autre chose. C'est pas correct.
Je vais vous dire en toute sincérité, les gens ici sont échaudés par les journalistes. Alors, donc, les journalistes, on les évite au maximum.
Alors, je suis désolé, mais moi, personnellement, je ne vous dirai rien. Maintenant, les autres... je suis désolé, mais on m'appelle.
Allez voir les autres sur la place, peut-être que vous aurez plus de chance.
Elle arrive, voilà. Voilà, t'as à 3, c'est bien bien.
Qui est-ce qui a gagné alors là?
C'est pour le moment, c'est nous qui marquons.
Oui, oui. Jusqu'à temps qu'on arrive à 13.
Oui. Ah, c'est la tienne que j'enlève.
C'est bravo.
Et je suis en train de me dire que, à part vous, on s'est pas fait que des amis. Avec la passion. Il y a que vous qui sont devenus nos amis, mais il y a beaucoup qui ne le sont pas du tout et qui ne sont pas tristes du tout aujourd'hui, croyez-moi. C'est à eux que cette dernière heure de la saison, pour l'instant, puisqu'on n'a pas de précision, est dédiée. J'ai mis des années et des années, pourtant je suis vieux, vous avez vu, pour France Inter, je suis bon pour la benne, mais j'ai attendu 71 ans pour noter sur un petit carnet au Brésil, à Rio, une expression de Paulo Freire, un grand pédagogue et théologien de la libération. Cette phrase, elle dit ceci. Lutter, c'est éduquer. C'est tout simple, hein, mais c'est bien formulé. Et c'est ce que nous avons fait, et que nous faisons, et que nous ferons encore. Lutter, c'est éduquer. On ira jusqu'au bout, on ne lâchera rien. Rien.
Une histoire légère pour finir la saison avec le sourire. Un petit garçon se promène avec son grand-père sur le bord d'une rivière. Un héron prend son envol. Le garçon dit « Tapon, tapon !» Le grand-père le reprend et dit « Héron, héron, petit, pas tapon !»